vendredi 1er juin, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Dernière édition, d'ailleurs, de l'émission pour la saison 2011-2012, puisque CKRL se mettra en mode été à compter de lundi prochain. Évidemment, ce sera pour nous une petite pause estivale et on espère bien être de retour en pleine forme en septembre. Mais d'ici là, on a encore une belle heure à passer ensemble. Raymond Poirier au micro avec vous, donc, jusqu'à 18h30. Il s'agit effectivement d'une opération mathématique fort simple d'additionner 17,30 plus 1 égale 18,30. Voilà, on ferme la parenthèse arithmétique. Et de quoi va-t-on parler ce soir à La Vie en BD? Mais notamment des collaborateurs qui seront de passage, Stéphane Gravel notamment, tout à l'heure, qui nous portera un regard sur une série classique, culte, La quête de l'oiseau du temps. Également, il y aura Michel Giguère qui sera de passage en fin d'émission et on a décidé de garder justement pour terminer la saison et se lancer vers la pause estivale, ben, de se garder un petit regard sur le plaisir de lire la bande dessinée au fil des saisons. Alors ce sera un petit texte, une petite réflexion que nous proposera Michel en fin d'émission aujourd'hui. Également, il y a quelques semaines a été lancé le volume 2 de ce magazine Zidara 9 consacré à la science-fiction faite au Québec. On avait parlé un peu du volume l'année dernière avec première édition et déjà le deuxième donc est arrivé plus volumineux, plus de textes, plus d'auteurs et il y aura deux de ces auteurs qui seront avec nous justement un peu plus tard ce soir, JP Perrault et Mirror Storm, qui nous propose d'ailleurs deux BD très différentes, j'ai l'impression aux antipodes l'une de l'autre. L'un propose une saga, pourrait-on dire, de science-fiction aux accents céréales assez classiques et l'autre, il va plutôt pour une proposition au saveur humoristique. Alors vraiment, on aura deux mondes à explorer un peu plus tard. Et également, mais puisque c'est la dernière, je me propose de faire un peu de rattrapage de mon côté. Comme vous le savez, de temps à autre, j'aime bien vous proposer mes commentaires BD. Alors je le ferai pour quelques albums également au fil de l'émission. Alors voilà pour ce qui est à venir. Petite mention également au passage, et ce sera aussi d'ailleurs, parenthèse, une option pour continuer à discuter ensemble de bandes dessinées, mais de le faire via le blog, mon blog sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et d'ailleurs, si vous y allez aujourd'hui, ou dans les prochains jours, évidemment, puisque les écrits restent, eh bien, vous allez trouver un petit article « Quand les BDistes s'intéressent aux conflits étudiants ». C'est assez rare qu'on parle de politique ici dans l'émission. On parle de bande dessinée, mais parfois, les deux en viennent à se marier. Et je sais pas si, sur vos fils Facebook, vous êtes tombé sur cet hyperlien. C'est une initiative, quelle que soit votre opinion, c'est à peu près certain que ça va vous faire sourire. C'est Vincent Giard qui, virtuellement, a organisé une manif de bonhommes. Alors, Vincent Giard, qui est bien connu du monde de la BD du côté de Montréal, notamment, c'est lui qui était derrière Colosse. Il offre également des blogs BD lui-même, des volumes. Et donc, il a décidé de regrouper d'autres BDistes pour faire une manifestation de personnages de bande dessinée, de personnages inédits. On reconnaît le trait de l'un, celui de l'autre, certains personnages également un peu plus emblématiques qui s'y retrouvent. Et il a regroupé donc une centaine et même plus d'une centaine de dessinateurs de Québec, de Montréal, d'ailleurs en province, qui ont décidé de participer à cette initiative-là. Donc, on vous épargne l'énumération de noms, c'est à peu près tout le monde, essentiellement, si on veut faire une histoire courte, là, ou presque. Alors, une vive quantité de bonhommes qui marchent, il y a de l'animation là-dedans aussi, et évidemment, tout ça contre la loi 78. Alors, vous pouvez trouver ça sur manif.aancre.org et également sur le blog. Bien, je fais un petit index aussi parce que ça m'a amené à me demander un peu ce que les BDistes avaient offert en matière de réflexion sur la loi 78 autour du conflit étudiant. Et j'en offre un petit inventaire, évidemment non exhaustif, mais ça donne une idée. Il y a Zviane notamment qui en a fait, Francis Desharnais, Luc Bossé, Laurence Lemieux, la gang de Zidara 9, Janice Saint-Hilaire qu'on avait rencontré dans le passé, David Turgeon également, Julie Delporte. Alors, beaucoup de gens comme ça qui ont fait des propositions à saveur politique, un peu engagées, inspirées de l'actualité du moment, comme quoi la bande dessinée est aussi un mode d'expression pour porter un discours, pour expliquer également un discours. Il y a des initiatives assez intéressantes qui avaient été faites en ce sens-là, notamment un fanzine qui s'appelle La Hausse en question, où on illustre un des argumentaires, celui contre la hausse, à partir d'arguments développés par des chercheurs de l'IRIS, d'un institut de recherche. Donc, plein d'exemples comme ça. Alors, si vous voulez découvrir tout ça, eh bien, rendez-vous sur mon blog, donc voir.ca/Raymond-Poirier, et vous aurez un foisonnement de lectures à parcourir. Et voilà un petit extrait d'un groupe qui nous suivra tout au fil de cette édition de La Vie en BD. Il s'agit d'une formation qui s'appelle Micro D. Je sais pas, j'avais envie d'écouter un peu de Microchip et de 8-bit aujourd'hui, alors j'ai décidé de me servir. C'est tiré d'un album qui s'appelle Prime, que vous pouvez trouver sur Bandcamp. On se permet un petit commentaire BD, une série historique qui vient d'être lancée, qui est loin d'être inintéressante, c'est évidemment pour ça que je vous en parle d'ailleurs. C'est donc une série d'albums qui seront exploités autour de reines célèbres de l'histoire, ce qu'on appelle les reines de sang. Donc on s'entend que ce sera pas bon enfant comme série, on mettra pas dans l'évidence des personnages qui ont fait la paix, qui ont fait l'unanimité. Au contraire, on va plutôt aller exploiter ces figures troubles de la féminité et de la royauté au fil des années. Il y a d'annoncer d'ailleurs une série sur Isabelle la Louve de France, deux tomes qui sont prévus. Il y en aura aussi sur Frédégonde, la reine sanguinaire Catherine de Russie dite la Grande, et ça viendra un peu plus tard, mais pour le moment premier tome de la série Aliénor, la légende noire, qui a été lancée en avril dernier. Trois tomes qui sont prévus pour cette série-là. Aliénor, qui est une figure quand même assez connue de l'histoire, elle a été successivement reine de France, reine d'Angleterre également, la mère de 7 enfants, plus célèbre est Richard Cœur de Lion, Jean Santerre. Donc elle a pris beaucoup de place, on peut dire, dans l'histoire de la France et de l'Angleterre. Évidemment, de la limiter à ce rôle-là, c'est un peu réducteur. Elle a été très influente aussi dans les décisions qui ont été prises, des décisions parfois extrêmement controversées. Et c'est ce qu'on va chercher à exploiter, justement, dans ce livre-là. Simona Mogavino, Arnaud Delalande également, Carlo Gomez au dessin, qui offre cette série. Et donc, on démarre avec la présentation de Louis VII dans l'obligation d'abandonner la vocation de moine à laquelle il se prédestinait. Et pour devenir roi de France, il va prendre comme épouse Aliénor pour faire une alliance avec le duc d'Aquitaine pour élargir le territoire qui est occupé, qui est maîtrisé par la France. Et évidemment, elle ne serait pas une reine de sang ou une légende noire si on reprend les éléments un peu fantasques du titre, si ce n'était pas parce que elle a pris beaucoup d'espace. C'est le premier album de la série. C'est un peu ça l'histoire qu'on nous présente, donc les débuts de ce règne-là et progressivement donc la façon dont cette femme-là va réussir à s'imposer dans la cour, à asseoir son influence sur le roi, et cela aux dépens de la mère de celui-ci, et cela aux dépens également d'un proche conseiller de son père. Donc comment elle a renversé un peu le régime en place. Donc, L'histoire elle-même est intéressante. C'est un personnage, effectivement, sur lequel il mérite de s'attarder. Et évidemment, à ça s'ajoute aussi un dessin qui est quand même fort agréable, fort appréciable. J'ai lu pas mal de BD historiques dans les derniers temps. Il y en a dans certains cas qui m'agressaient littéralement les yeux. C'est le cas d'une série qui s'appelle La Bataille, notamment, où le dessin était complètement figé. Enfin, on sentait pas du tout le mouvement. C'était pas agréable à regarder. Alors, vraiment, ça, j'ai l'impression que d'avoir lu celle-là avant de lire Aliénor me fait beaucoup plus apprécier cette première lancée des Reines de Sang. Donc, un dessin qui est sans réinventer la roue, qui est efficace, qui est fluide, un trait qui est très correct et qui rend bien, à mon sens, l'atmosphère de l'époque, les émotions des différents personnages. Donc, ce qui fait que sans être nécessairement une lecture incontournable, mais ça reste un récit qui est intéressant à explorer, si ce n'est aussi pour l'occasion là, qui est offerte de découvrir cette figure connu et méconnu à la fois de l'histoire de la France et de l'Angleterre. Alors, je le rappelle, c'est chez Delcourt, ça s'appelle Aliénor, la légende noire, le tome 1. Et il y a plein d'autres affaires et plein d'autres tomes qui vont évidemment suivre autour de cette nouvelle série. On verra si ce premier tome était de bon augure ou si ce sera plutôt l'exception. Alors, à suivre. On prend une courte respiration musicale et on revient avec d'autres commentaires et regards sur la BD. Et on poursuit à La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et on est rejoint au bout du fil par Stéphane Gravel. Bonjour.
Allô.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi aussi?
Ben, ça va très bien également. Dernière émission, évidemment, dernier sprint. On se prépare pour l'été. Et de ton côté, on reste aussi dans les bons vieux albums qu'on redécouvre.
Absolument. Écoute, La Quête de l'Oiseau du Temps, un chef-d'œuvre, d'après moi, de Loisel et Le Tendre. Une BD qui, encore une fois, avait marqué beaucoup mon imaginaire et mon amour de la BD quand j'étais plus jeune. Il y a eu une intégrale qui est parue il y a quelques années, et là on refait encore une fois chez Dargo l'intégrale de La Quête de l'Oiseau du Temps. Le premier cycle, bien sûr, qui est de Le Tendre et Loisel.
Et j'ai l'impression que c'est une série, en fait, si on la connaît pas, il faut la connaître. C'est une des séries marquantes de l'heroic fantasy, si on peut dire, en bande dessinée. Là.
Je pense que ça a été un peu l'influence de toute la nouvelle mode qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a eu énormément de trucs chez Soleil là, qui sont inspirés de cet imaginaire-là et de ce monde-là qui est celui de La Quête. J'aurais aimé, par contre, si... C'est sûr que, là, j'ai deux idées qui me bousculent la tête en même temps, là. C'est sûr, c'est une série incontournable. C'est un scénario qui est merveilleux. C'est un dessin de Régis Loisel qui est à son summum. Mm-hmm. C'est des personnages qui sont extraordinaires. Cette BD-là, c'est le début... d'un grand succès de ce dessinateur-là qui est Loisel. Il a travaillé chez Disney par la suite. Il a continué à créer des personnages, à créer des mondes. C'est un monde imaginaire qui est extrêmement bien construit et qui est extrêmement savoureux. Par contre, et non pas pour la bande dessinée, mais par contre pour l'édition, je trouve que les éditions d'Argot ont voulu faire un beau livre avec cette réédition-là en mettant une jaquette papier qui est un beau dessin de Loisel sur le dessus. Mais passer cette jaquette-là, nous n'avons, quoique je dis ça parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais nous n'avons que l'intégrale de La Quête de l'Oiseau du Temps.
Et ça vient trancher un peu parce que Stéphane, justement, tu nous parles souvent ces dernières semaines, ces derniers temps, d'intégrale, de réédition, et souvent, justement, on essaie d'ajouter des segments pour mettre en évidence soit la portée de l'album, soit la replacer dans l'époque de création, soit nous informer sur les auteurs, nous donner des planches, nous donner un plus, dans le fond, pour justifier peut-être l'achat pour ceux qui ont déjà la série, ou pour donner une valeur ajoutée à ceux qui vont se la procurer, qui vont profiter de cette édition-là pour la découvrir. Et donc, c'est pas le cas avec celui-là.
Non, c'est pas le cas. Puis c'est une série culte, donc je trouve ça un peu dommage. Un gros plus, par contre, les deux premiers tomes de la série ont été recolorés par François Lapierre. Lapierre qui est aussi auteur de BD et qui a une coloration, qui a un sens de la couleur qui est extraordinaire. C'est lui qui fait les couleurs de la série Magasin Général, entre autres.
Oui, c'est peut-être le grand oublié quant au succès de cette série-là, qui est aussi vibrante par les couleurs, là.
Donc, il y a une saturation et une approche de la couleur qui est superbe, à fin de compte, dans ce tome-là, dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais je sais pas pourquoi, par contre, on n'a pas fait les deux derniers, parce que quand on revient aux couleurs de l'époque, quoi qu'il y avait eu une évolution entre le tome 1 et le tome 4 déjà dans la couleur à l'époque, mais reste que c'est pas les couleurs de la pierre. Mais en même temps, si on retourne à une BD des années 80 comme ça, est-ce qu'on veut avoir des nouvelles couleurs? Est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui est plus près de la BD de l'époque? Je suis un peu ambivalent là en tant que puriste. Je me dis, ben, je vais avoir les couleurs de l'époque, même si elle était plus moche. Mais d'un autre côté, quand je vois les couleurs de la pierre, je trouve ça tellement beau. Puis je me dis, pourquoi se passer de tout ça pour revamper comme ça cette édition-là?
Oui, en fait, c'est qu'au bout du compte,
j'aurais aimé des textes. Oui, j'aurais aimé avoir un petit peu de... Je dois aimer les potins, je suppose.
Non, mais en même temps, c'est qu'il y a toujours un intérêt, justement, d'aller plus loin, parce que, justement, comme tu le disais, c'est une série culte, c'est une série incontournable. Donc, je sais pas, on veut en savoir un peu plus, on veut avoir à limite de l'analyse, la réflexion.
Où en étaient les auteurs à l'époque, quelle était leur démarche, qu'est-ce qui a amené cet univers-là, et tralala, quoi.
Oui. Mais reste que, d'une manière ou d'une autre, si par un détour de circonstances, on n'a pas encore découvert La Quête de l'Oiseau du Temps, ben là, on se dit, ben il faut, et on en profite. Là.
Non, il faut absolument le faire.
Et qu'est-ce qui fait, peut-être un petit rappel, Stéphane, qu'est-ce qui fait justement la force, le succès de cette série-là?
Ben écoute, je pense que, à quelque part, c'est un scénario digne des Star Wars, là. C'est un scénario à rebondissement qui est solide, avec des personnages qui sont inexistants dans notre monde et qui sont très cohérents et qui sont très crédibles. Je pense que ça, c'est à quelque part au niveau de l'histoire la force de cette série-là. Ensuite, ben c'est le dessin de Loisel. Loisel a un dessin qui est extrêmement travaillé. C'est chaque case est d'une beauté extraordinaire, ce qui fait que on peut pas passer à côté. Le personnage principal de Péris est un héros non héros extrêmement attachant qu'on a le goût de connaître, qu'on a le goût même de prendre dans nos bras. Et c'est toute cette évolution-là qui fait que cette BD-là est incontournable. C'est simplement très bon, en fin de compte. Mm-hmm.
Donc l'important, au bout du compte, c'est de la retrouver, point, parce que comme on n'a pas de valeur ajoutée dans la réédition, ben qu'on trouve des anciens exemplaires ou des nouveaux, faut simplement la lire.
Oui, absolument. Je pense pas que cette édition-là soit incontournable plus qu'une autre, mais ça rappelle que c'est une grande série.
Alors ça, c'est La Quête de l'Oiseau du Temps de Loisel en réédition. Et un autre petit mot, on en a quelques instants qui nous restent, Stéphane.
Le trombone illustré chez Dupuis, la réédition des journaux fait par Delporte, faite à l'époque aux éditions Dupuis. Je ne sais pas si c'est facile à trouver. C'est un livre de fou. C'est extraordinaire de retomber dans ces pages-là. Là, il y a du texte. Là, il y a de l'information. Parce que... Et il y a la réédition de toutes les pages du Trombone Illustré, ce petit magazine-là qui était paru au début des à la fin des années 70, début des années 80. C'est Franquin qui menait ça aussi avec son collègue là. Et puis c'est tout un monde. C'est un monde de gags. C'est un monde de qui mélange texte, BD, et c'est à la fois aventure, à la fois absurde. C'est vraiment, vraiment, vraiment un truc mystérieux et un truc hyper intéressant. C'est entre autres dans ces trombones-là qu'on a vu apparaître les idées noires de Franquin, là, les gags en noir et blanc qui étaient extrêmement incisifs et extrêmement intéressants. Et puis, mais c'est un fourre-tout, ce Trombone Illustré-là. Ça va partout à la fois, et je pense que c'était une époque où la bande dessinée se cherchait un peu là. On parle souvent de la chute de la scénarisation et la chute de l'histoire, les scénarios qui disparaissent. Et il y avait une volonté de vouloir repenser la BD, et je trouve ça extraordinaire de tomber dans un document comme ça. Mais là, on tombe vraiment. C'est vraiment un type de BD document, c'est-à-dire que ce sont des facsimilés des pages du Trombone de l'époque qui sont ma foi introuvables, qui n'étaient pas tirés à grands exemplaires et qui sont des pièces de collection aujourd'hui là.
Oui, ça c'est en fait c'est une occasion, comme tu disais, de voir un peu un travail parallèle ou un travail précurseur à des grandes séries que des grands auteurs ont fait, mais de voir aussi des explorations qu'ils ont menées à d'autres productions qu'ils animaient et qu'ils recherchaient après ça.
Absolument, absolument. Écoute, c'est un livre assez volumineux. C'est un livre qui m'a coûté assez cher aussi, mais je vais t'avouer franchement, j'ai pas fait de dissonance cognitive longtemps là, en embarquant dedans puis en fouillant dans ce livre là. J'ai jamais regretté mon je pourrais presque dire investissement là. C'est vraiment une pièce de collection de BD. Si vous la voyez, si vous la trouvez, au moins feuilletez-la, c'est génial.
Et tu parles de facsimilé des pages, donc ça veut dire que côté qualité de dessin, c'est pas top côté impression, ou ben, au contraire, on s'en sort.
C'est que c'est pas le format. Ils sont repartis des films pour faire une mise en page d'une grandeur de BD à peu près standard, mais grand format. Ils sont pas partis du format original des Trombones Illustrés, qui était quand même un journal qui était assez grand. Mais l'impression reste très bonne. On n'a pas l'impression qu'on regarde des photocopies là. Au contraire, là, on est parti des films et on voit que les noirs sont noirs et les trucs sont très beaux, mais c'est pas on n'a pas, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas entre les mains le trombone, et on sent pas le papier que le Trombone Illustré avait à l'époque, ou le format que le Trombone Illustré avait à l'époque. C'est vraiment des pages conventionnelles là, dans lesquelles sont reproduites des pages du Trombone.
Oui, c'est un peu comme si on prenait un fanzine d'aujourd'hui et qu'on le reproduisait pour la postérité dans un autre format.
Exactement, exactement.
Mais à tout le moins, ça devient un témoin extrêmement intéressant, et si on a les moyens de se le procurer, ou si on a envie de se le procurer, ben il faut.
Oui, c'est quand même un truc qui est autour de 70$ là. C'est un peu cher, mais je suis pas sûr qu'il y en a des milliers de copies sur le marché non plus. Je pense que quand on est un peu fou là, puis qu'on on aime Franquin, qu'on aime Delporte, qu'on aime tout cet univers-là là, quand je veux dire, on quitte Franquin quitte Spirou, il cherche un peu, c'est le développement de Gaston Lagaffe, c'est l'arrivée des idées noires, c'est tout cet univers-là. C'est quand même une période de BD qui est extrêmement intéressante
ça. Alors ça s'appelle le Trombone Illustré. Stéphane Gravel, merci beaucoup.
Ben, ça me fait plaisir.
Et au plaisir de reparler BD avec toi cet automne.
Bien sûr, ça me fait... j'aime ça parler BD.
Voilà. Ben, au plaisir, Stéphane. Bon été.
OK, toi aussi. Bye.
Salut bien. Toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. D'ailleurs, si vous voulez avoir les informations sur l'émission et suivre notre fil Facebook, mais c'est possible, cherchez simplement La Vie en BD sur le site de socialisation où tout le monde ou presque se trouve. Et sinon, on continue peut-être avec des petits commentaires BD. Je parlais de mode rattrapage en début d'émission, alors je vais rester un peu là-dedans. Deux albums qui s'intéressent, pourrait-on dire, à la sphère maritime. Il s'agit du premier tome de la série Skipper, peut-être un one-shot aussi, ça reste à voir. Et également le dixième tome de la série Tramp. Et deux albums que j'ai trouvé intéressants, encore là, souvent, ce dont je vous parle, pas nécessairement des incontournables, mais par contre, si la description vous semble intéressante, ça peut être pertinent d'y jeter un petit coup d'œil. Moi, c'est des albums que je retiens pour différentes raisons, malgré certaines imperfections, notamment Skipper, tome 1, qui s'intitule Somalia, que j'ai trouvé pas déplaisant, en fait. C'est imaginé par Khaled et JF, c'est dessiné par Lenard, et sans être exceptionnel, le tout fonctionne donc très bien. Donc on y suit en fait un type, un ancien coureur naval qui est un peu devenu l'anti-héros typique, un peu écarté, qui s'est retrouvé dans les îles grecques où il s'est volontairement exilé pour diverses raisons, et il va faire une rencontre qui va le ramener sur les mers, qui va l'amener en Somalie à la recherche d'un journaliste qui aurait été kidnappé. On va essayer donc de trouver avec la conjointe de ce journaliste-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, essayer de creuser un peu ce qui pourrait peut-être être un drame, ce qui aurait pu peut-être mener au pire. Donc, un départ peut-être un peu plus classique, mais ce qui est intéressant dans ce récit-là, c'est surtout le scénario. Donc, dessin réaliste fonctionne, mais pour le scénario, c'est que Khaled et JF ont vraiment pris le pari du réalisme à l'intérieur du récit. Donc, on met de côté à peu près tous les, ou presque, là, pas l'ensemble, mais une bonne partie des stéréotypes de ce genre de récit-là. Il n'y a pas de mièvrerie, il n'y a pas d'histoire d'amour qu'on place obligatoirement là, sur un récit où il y a un protagoniste masculin et féminin. On se sent pas non plus obligé d'aller vers une fin heureuse, et à un moment donné, on a l'impression que ça finira pas bien. Alors vraiment, c'est très crédible côté histoire, avec des instants tragiques, des moments d'émotion. Bon, oui, un peu d'éléments caricaturaux là-dedans, mais reste que le scénario est intéressant, donc je le répète, par son réalisme. Alors ça, c'est Skipper tome 1, Somalia. Et sinon, l'autre récit, ça c'est Tramp tome 10, Le cargo maudit, une série qui roule quand même depuis un bon bout de temps, là, réalisée par Krem et Jussom. Et dans ce livre-là, j'ai vraiment l'impression qu'on revenait à une esthétique années 50. Bon, l'album se passe dans les années 50 et c'est, si vous me permettez l'anglicisme, old school également comme présentation, comme type de BD. C'est efficace côté graphique, côté ambiance, et c'est extrêmement classique côté histoire, mais en même temps, malgré le fait que c'est classique, malgré le fait qu'on a l'impression d'avoir peut-être déjà lu ou déjà vu cette histoire-là, on embarque quand même, parce que même si c'est classique, c'est bien raconté, c'est bien assumé. Alors après un périple en Indochine, un capitaine qui s'appelle Yann Kalec, qui est de retour en Normandie, qui débute une nouvelle vie, qui veut s'acheter un cargo, qui se l'achète et qui veut le mettre à la mer, mais qui ne réussira pas pour diverses raisons. Il y a plein de gens qui lui mettent des bâtons dans les roues, il y a un meurtrier en série là-dedans aussi qui fait des rituels sataniques, il y a des problèmes avec les syndicats qui sont alliés avec les patrons du port. Bref, c'est un récit maritime, mais qui se passe entièrement ou presque à quai. C'est un one-shot aussi dans cette série-là. Souvent, c'est des diptyques ou des triptyques. Ici, c'est un one-shot extrêmement touffu, 54 pages bien remplies. Et donc, un récit, comme je le disais, classique, mais qui fonctionne. Pour ceux qui ont envie d'un petit polar en BD pour démarrer l'été, eh bien, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors voilà, c'est Tramp, Le cargo maudit, tome 10 donc de la série. On prend une courte pause à venir, Zidara 9 et Michel Giguère.
Lundi, le 4 juin, dès 15h30, soyez aux premières loges du lancement de la nouvelle programmation d'été 2012 de CKRL. Animation, sourire et crème protection Extrême 89 seront au rendez-vous. Venez rencontrer vos animateurs favoris et profitez-en pour déguster la nouvelle bière, la CKRL. Le lancement de la programmation estivale de CKRL au Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, le 4 juin de 15h30.
J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL,
c'est la meilleure au monde.
Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL,
coule bien en bouche.
Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime
des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons.
Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 503e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, La CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi.
Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel.
Today's security code is 5334118.
Mezzanine, seulement au 89.1.
C'est KRL.
À Québec.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition.
26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e avenue Limoilou. Lebaldulézard.com.
Et on poursuit à La Vie en BD, toujours ici sur les ondes du 89.1 CKRL. On vous rappelle d'ailleurs, ben, côté blog, pour entendre ou réentendre les émissions qu'on a faites, ben, c'est possible via lavieenbd.wordpress.com. Également, notre blog estival, peut-être, et au-delà, voir.ca, / Raymond, trait d'union, Poirier. Donc, c'est les deux endroits où, outre cette émission, on parle avec vous, bande dessinée. Et il y a un volume 2 qui a été lancé tout récemment, celui de Zidara 9. On vous en avait parlé l'automne dernier, donc Rémi Paradis et Mathéo qui s'étaient lancés dans la production de ce magazine de science-fiction, qui avait lancé un appel à plusieurs auteurs, aux auteurs intéressés, de leur proposer des textes avec dans l'idée justement de revenir avec un tome 2, un tome 3 et au-delà. Alors tome 2, titré Printemps 2012, qui est arrivé, toujours destiné et toujours consacré à la science-fiction québécoise, et avec beaucoup plus de pages, beaucoup plus d'auteurs également. Et on a deux de ceux-ci avec nous aujourd'hui. Alors, pour parler de leur texte et de ce nouveau volume, alors, on les accueille. JP Perrault, bonjour.
Bonjour.
Patrick Blanchette, alias Mirror Storm, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans vos cas, qu'est-ce qui vous a amené justement à embarquer dans l'aventure Zidara 9, à proposer des textes?
Pour moi, j'ai vu la publicité sur Facebook qui avait été postée, qu'on cherchait des auteurs pour le volume 2. Puis moi, c'est vraiment, on manque pas une occasion de se faire connaître, de faire des contacts. Comme auteur, c'est difficile de créer des liens.
Faut faire sa place, puis faut saisir les opportunités.
C'est ça.
Et c'est un peu la même chose, JP?
Oui, dans mon cas, j'avais vu la publicité sur Facebook, justement. J'avais un récit de science-fiction que j'avais proposé dans un autre recueil l'automne d'avant et qui avait été refusé. C'est un récit de science-fiction qui était un espèce de récit d'anticipation, puis qui est beaucoup plus sérieux, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien. Je connais plus pour l'humour, puis je voulais faire quelque chose d'un peu peu plus sérieux. Et donc j'avais proposé ça à Rémi et malheureusement il a été refusé également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai reviré ma chemise en dedans d'une semaine et j'ai assemblé une histoire toute simple et le plus simple et direct possible.
Et nécessairement, c'est un peu le défi d'ailleurs du type de récit qu'on intègre dans les magazines comme ça, dans la mesure où c'est de la nouvelle, c'est court, faut que ça soit, faut établir en quelques cases rapidement un univers, les personnages, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour happer le lecteur, pour l'embarquer dans les univers qu'on lui propose.
Oui, c'est certain. Généralement, il faut essayer de rester à une idée. Faut quand même essayer de... Moi, ce que je fais, c'est j'essaie quand même de me tenir à la méthode un peu du cinéma des quatre quarts. Essayer d'avoir quand même qu'à chaque 3-4 pages, il se passe quelque chose qui fait avancer l'histoire. Mais c'est sûr qu'il faut condenser, présenter les personnages rapidement à l'univers...
Et JP, de ton côté aussi, en fait, même, bon, je pense que ça va être un diptyque, cette série-là. En fait, il va avoir une suite, évidemment. Ça appelle à ça, mais on soulève beaucoup de questions aussi dans les pages que tu proposes.
Pour ce qui est d'une suite, personnellement, je n'y compte pas forcément pour l'instant, du moins. J'ai absolument pas envisagé une suite, à vrai dire. Ça se terminait comme ça.
Oui,
et, mais dans mon cas, c'est que, vu que c'est de l'humour, en vérité, ce qui est un peu drôle, c'est que 10 pages, je trouvais ça beaucoup, en fait, pour un récit humoristique. Contrairement à un récit sérieux où c'est quelque chose de beaucoup plus restreint. C'est ce qui est probablement la différence majeure avec l'humour, où donc le punch doit venir peut-être plus rapidement.
Exactement. Et pour la suite, en fait, je voulais plutôt dire pour Patrick, c'est des nouveaux visages devant moi. Donc, mais justement, en fait, parce que c'est intéressant, l'humour exploité sur une dizaine de pages, effectivement, ça peut être un peu plus lent. Faut renouveler les gags, les suites, tandis que dans ton cas, Patrick, pour la création de ton récit, ben c'est plus court parce que là, on y va avec quelque chose d'un peu plus développé, si on peut dire,
oui,
côté récit, qu'il faut que ça soit sur plusieurs pages, sur plusieurs blocs. Donc c'est deux dynamiques assez, j'ai l'impression, différentes en termes de relation avec la page, avec le format.
Oui, c'est vrai. Puis en même temps, je suis pas certain que j'ai fait vraiment je l'ai fait en 14 pages, mais en même temps je me suis laissé un peu une fin ouverte pour peut-être faire une suite. C'est plus simple comme ça quand tu fais une fin un peu ambiguë que c'est pour un récit comme ça, parce que ça donne l'occasion de penser plus loin, mais en même temps de donner une fin qui est satisfaisante au lecteur.
Et ton côté, JP, c'est plutôt justement un récit à punch successif au bout du compte. Donc, il y a plusieurs segments qui auraient pu être un court gag, un autre court gag, etc.
Oui, ben j'essaie de parsemer ça quand même relativement bien, pas qu'il y ait de temps mort forcément. Même si j'ai expérimenté un peu au niveau de la narration pour... Oui, on va avoir des moments de silence, pas nécessairement avoir toujours un gag toujours à chaque page. Donc, je pense que ça reste quand même équilibré au final, là, mais je suis allé un peu plus jazzy sur ce coup-là.
Et justement, en fait, on parle un peu théoriquement, mais peut-être pour permettre aux auditeurs, aux auditrices de se faire une idée un peu plus claire peut-être de vos récits, je vous laisserai peut-être successivement présenter là, en quelques mots ce que vous offrez dans Zidara 9.
C'est bon. Veux-tu commencer?
Oui. Mon histoire, ça s'appelle « We Walked on Uranus ». Et ça raconte l'histoire du premier homme qui a mis le pied sur Uranus, mais le problème, c'est qu'il a oublié de chier avant de partir.
Ça donne le ton.
Pour moi, j'ai voulu créer un peu un univers, parce que j'avais jamais rien fait avant en science-fiction. Donc, puis je sais pas, c'est pas un genre tellement que je suis un connaisseur, donc j'ai voulu... trouver peut-être une façon un peu de contourner, fait que je suis allé un peu dans fantastique science-fiction. J'ai créé un univers qui est un peu relié au nôtre, où chaque personnage est relié à une étoile ou un astre de l'espace, et leur sort est relié à celui-là de l'astre en question. Donc si le personnage meurt, l'étoile meurt, ou si l'étoile meurt, le personnage meurt. Donc c'est pas exactement clair si c'est notre univers qui influence le leur ou le leur qui influence le nôtre. Et dans cet univers-là, on retrouve Arina et Prajan. Arina qui est une petite fille et Prajan son garde du corps. Arina porte autour du cou un objet vraiment précieux qui est désiré par absolument tout le monde. C'est pour ça que on la poursuit, on veut lui voler cet objet-là, sa vie est toujours en danger. Mais pourtant, elle peut pas s'en débarrasser, elle doit le garder, puis faut qu'elle le protège. Puis l'histoire, c'est de découvrir qu'est-ce que c'est que cet objet-là, puis...
Des différences évidemment au niveau du récit, différences aussi au niveau du trait. Comment s'est passé un peu l'exploration? JP, tu disais ça s'est fait quand même assez rapidement de composer ça. Est-ce que c'est assez représentatif aussi de ton travail plus humoristique? On peut penser aussi au petit chaperon rouge le plus cool du monde que tu avais faire en 2009 chez Première Ligne. Est-ce que c'est assez représentatif de ce que tu fais?
J'avoue que le lien est intéressant parce que le petit chaperon rouge, je l'avais fait en dans de 24 heures. Donc, il y a effectivement un travail de rapidité là-dessus. C'est sûr, l'approche n'est pas du tout la même parce que cette fois-ci, contrairement au chaperon rouge qui était un 24 heures BD, pas de crayonné du tout. Et We Walked on Your Anus, j'avais beaucoup plus de talent que d'expérience qu'à l'époque où j'ai fait le chaperon. Donc maintenant je travaille entièrement la tablette graphique avec crayonné et tout, et comme bien scénarisé à l'avance.
Mm-hmm. Donc un travail qui reste rapide, mais une question d'efficacité tout simplement, puis avec les moyens aussi qui permettent d'arriver rapidement à un résultat qui est très satisfaisant,
là. Oui, c'est toujours une question de préparation, je pense.
Mm-hmm. Puis en même temps, un choix assez puré aussi côté dessin. Il y a la planète qui a des roches, il y a les étoiles, donc c'est vraiment un accent émis plutôt sur le scénario, sur le rythme du récit plutôt que sur le graphisme justement qu'on y trouve, qui reste efficace mais qui vise, à mon sens en fait, du moins qui me semblait viser à être efficace d'abord et avant tout.
Ouais, mon mot d'ordre aussi, c'est beaucoup dans mon dessin, autant dans mon récit en général, c'est la simplicité tout simplement.
Et parallèlement, c'est pour ça que j'étais bien content de savoir que c'était vous deux qui viendriez parler de Zidaranov, parce que ça montre bien aussi la variété des trucs qu'on trouve dans ce volume 2. Patrick, de ton côté, c'est très graphiquement, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de recherches justement pour créer les personnages, pour inventer ces êtres-là.
Oui, c'est ça. C'est eu au moins une bonne semaine où juste faire les sketchs, décider l'apparence des personnages. Mais en même temps, je suis pas tellement parti de zéro parce que cette histoire-là, il y a quelques années, j'avais travaillé un peu sur un conte pour enfants, puis le concept des étoiles comme ça, je l'avais déjà un peu pensé, mais ça n'avait jamais abouti. Donc, j'ai comme repris la base de tout ça, puis genre essayé de mettre au niveau les croquis que j'avais pour voir trouver un style comme ça. Puis...
Mm-hmm. Donc, de travailler un peu avec les bases qu'on a, puis après ça, d'essayer de les développer, puis de profiter aussi justement de cet exercice-là pour travailler un style, pour soit se mettre en danger en faisant quelque chose qu'on n'est pas habitué, ou soit continuer de peaufiner un peu en attendant de pouvoir se mettre en danger dans d'autres contextes.
Oui, c'est ça, mais en même temps, avec par exemple un personnage comme Pradjan, j'ai un peu utilisé une inspiration, j'avais un peu l'idée de faire un peu un personnage un peu cowboy, genre comme mettons Helsing, comme ça, qu'un gros manteau. Un gros manteau avec peut-être un chapeau, tu sais, les yeux que tu vois pas trop vraiment. Mais faire ça, mais futuriste un peu. Fait que là, j'ai essayé un peu mélanger, là, puis c'est un peu l'inspiration que j'avais, là.
Et en terminant, en fait, j'invite les gens d'ailleurs, s'ils veulent voir un peu ce dont vous êtes capable, ce que vous offrez, il y a notamment, évidemment, dans Zidaranov, mais aussi vos blogs, vos sites, mirrorstorm.net, gpman.blogspot.ca, pour explorer un peu vos créations, pour vous connaître aussi un peu mieux. Outre Zidaranov, est-ce que vous avez d'autres projets en tête, en cours, que vous espérez produire d'une façon ou d'une autre?
Oui. Justement, sur mirrorstorm.net, c'est là que j'annonce tous mes nouveaux projets. En ce moment, je suis en discussion avec le propriétaire d'une nouvelle maison d'édition, R2 Édition, puis il va peut-être y avoir un développement avec ça, mais je vais faire toutes mes annonces sur le site. Je vais vous tenir au courant comme ça.
Et JP?
De mon côté, depuis plus d'un an maintenant, je fais des cours strips de bande dessinée pour le site elephant.canoe.ca. Donc, ce que je fais, c'est que j'adapte des classiques du cinéma québécois en bande dessinée sur ce site-là. Et présentement, je travaille sur une série de comic book qui s'appelle, ou du moins qui va s'appeler Fearless Man, et qui devrait être publiée dans la région de Montréal, autopubliée dans la région de Montréal prochainement.
Donc, ça sera surveillé dans les librairies spécialisées, Exposin et autres aussi, et sur le site.
Exactement.
Aussi, peut-être, j'aimerais mentionner, d'ici 2-3 jours sur mon site web, il y a justement un de mes nouveaux projets qui va sortir. C'est un projet qui s'appelle Entre elle seule, qui était destiné au concours du 48 heures BD de Valleyfield, qui vient d'être terminé et va être posté dans les 2-3 jours.
Alors, beaucoup de dossiers à suivre et à découvrir en route vers l'été. On a le temps de lire, justement. Alors, on en profitera au maximum. JP Perrault, Patrick Blanchette, alias Mirrorstorm, merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.
Et je rappelle donc Zidara 9, volume 2, qui est disponible ça et là, ici à Québec. Et pour plus d'informations, vous avez blog.zidara9.com. Et voilà, dernier petit extrait qu'on vous propose aujourd'hui de Micro D, album Prime qu'on trouve notamment sur Bandcamp. J'avais envie d'écouter un peu de 8 bits pour cette dernière édition de La Vie en BD. Alors, ben voilà, c'est chose faite. Et sur ça, on accueille maintenant notre collaborateur Michel Giguère. Bonjour.
Salut Raymond. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le nouveau thème des Auraliens.
Qui sait? Dossier à suivre. Michel, j'annonçais un peu d'entrée de jeu. En fait, on termine la saison dans quoi? Quelques minutes. Alors, tu m'as proposé, quand je t'ai contacté pour ce dernier espace, tu m'as proposé une petite réflexion sur le plaisir de lire de la BD au fil des saisons.
Ben écoute, c'est une coïncidence parce que c'est la fin de la saison. En fait, la fin de la première année même de l'émission. Et puis, il se trouve que je suis en vacances depuis un peu plus d'une heure. Donc, je tombais en vacances pour 2 semaines et j'ai comme projet de A, ne rien faire et B, lire. Et puis, je me suis dit, pourquoi c'est l'été, tout ça, il y a plein de gens qui ont un petit peu de temps libre et pourquoi ne pas parler du plaisir de lire et plus précisément lire de la bande dessinée. Alors, j'ai pensé vous lire un texte inédit que j'avais écrit sur la question. Alors, je me lance, ça commence comme ça.
L'espace est à toi.
Jusqu'au milieu des années 1970, mes sœurs et moi disputions le supplément illustré du Soleil de la fin de semaine qu'on lisait en passant à plat ventre sur le plancher de la cuisine. Au cours de la même décennie, les années 70, avec mes chums, nous dépensions nos sous à la tabagie pour nous procurer qui le dernier Archie, qui le dernier Thor ou le dernier Spider-Man. Jamais je n'oublierai la mort de Gwen provoquée par le lutin vert. Ces fascicules, que nous n'appelions pas encore des comic books, étaient traduits à l'époque par l'éditeur québécois Héritage et nous nous les prêtions avec avidité. Bientôt, nous traversâmes Limoilou, de fond en comble, de la 48e rue où j'habitais jusqu'à la 4e rue, où se trouvait la petite bibliothèque municipale de l'époque. C'était quelques murs et quelques tablettes, là, bien garnies. Alors, on allait là pour dévaliser la petite bibliothèque d'alors en remplissant nos cartes respectives avec des albums de Bruno Brasil, de Body Longway et autres rubriques à brac. Nous nous installions ensuite dans une pièce silencieuse parmi les albums éparpillés, ravis et enchanté. Durant cette période, la popularité de la bande dessinée tenait du phénomène de société. Mais ma piqûre de la BD, qui devait se révéler incurable, remonte à plus loin, c'est-à-dire à Astérix en Hispanie, que j'ai lu avant de savoir lire. J'entends par là que j'ai lu les images. Encore aujourd'hui, dans l'introduction de mes cours, je répète aux apprentis BDistes, gardez à l'esprit que vous devez réaliser des dessins qui seront lus, des dessins à lire. Par la suite, mon parcours de BD-phile fut jalonné de découvertes marquantes, d'expériences charnières quant à mes habitudes de lecture, mon ouverture d'esprit et mes goûts. Les goûts sont comme les muscles. Plus on les sollicite, plus on repousse leurs limites. La découverte à la bibliothèque de mon école en 5e année du primaire de la série Blueberry par l'entremise de l'album Chihuahua Pearl provoqua une manière d'électrochoc. Au-delà de la qualité et de la densité de l'œuvre, celle-ci exerçait une fascination, une séduction propre aux œuvres un rien trop matures pour un si jeune lecteur. Un peu plus tard, la série Jonathan du Suisse Cosé, avec ses suggestions d'accompagnement musical, m'initia à une sensibilité, une humanité nouvelle pour moi. À l'aube de la vingtaine, je finis par me résoudre à plonger dans un album dont l'esthétique me rebutait presque et dont je reportais la lecture depuis quelques années malgré tout le bien que j'en entendais. Il s'intitulait « Silence » de Comès et cette révélation pulvérisa mes a priori à l'endroit d'œuvres au thème ou au graphisme moins grand public. Et la nuit dernière encore, j'ai terminé « Asterios Polype » de Mazzucchelli qui m'avait déjà jeté à terre avec « Cité de verre » et un constat s'impose. Plus de 40 ans de bédéphilie n'ont en rien émoussé ma passion pour ce médium, non plus que 22 ans à l'enseigner, à le présenter à des audiences de lecteurs, de professionnels des bibliothèques, de libraires ou de l'enseignement, ou encore, à l'occasion, à le promouvoir dans les médias. Si bien que je me demande à quoi tient que le charme demeure intact, l'enthousiasme inaltéré. La question nous ramène à ces images à lire, ces images qui racontent, caractéristiques premières de la figuration narrative. Oui, je crois que ça tient avant tout à cette alchimie de la narration par le dessin, où le coefficient espace-temps cher au capitaine Kirk se décline avec une finesse et une diversité qui me subjuguent encore parfois. Cette succession d'arrêts sur image, d'instantanés figés et pourtant pleins de mouvements et de vie, ce rythme particulier au 9e art dans lequel les raccourcis deviennent souvent moins une contrainte qu'une force, ce subtil jeu de cases et d'intercases, espace blanc entre les vignettes où il se passe bien des choses et que Goscinny ou Alan Moore, pour ne nommer que ceux-là, maîtrisent avec brio. M'emballent aussi la puissance, le raffinement et la singularité avec lesquelles la bande dessinée peut exprimer l'intériorité des êtres de papier à la psychologie sans cesse plus développée. Plus globalement, pour finir, ce que j'aime tant de ce médium se traduit par un paradoxe. Le récit en BD s'avère aussi léger à concevoir au sens propre que complexe à concevoir au sens figuré. En d'autres termes, avec un crayon en guise de baguette magique, le BDiste arrive à créer des univers, à mener des destins, sauf que, comme je m'applique à le rappeler aux lecteurs et aux lectrices dans mon travail de médiateur, de passeur, cet apparent miracle de papier requiert la maîtrise de plein de notions, plein de techniques et plein de procédés narratifs, sans oublier aussi une masse colossale de travail. Chapeau bas aux artistes, aux conteurs de la BD, et bon été.
Et voilà, en fait, Michel Giguère, un ode à la lecture et au plaisir de développer, de savourer cette complexité. Ouais. Qui coffre la bande dessinée.
Et ce qui est le fun, c'est que c'est une complexité qui se digère quand on la lit, qui se digère tout facilement.
Oui,
tout simplement.
Qui se digère si on décide au niveau de digestion variable selon l'envie qu'on a de la digérer.
Oui, parce qu'il y a des œuvres qui, d'ailleurs, c'est pas moins intéressant. Il y a des œuvres qui se dévorent à toute vitesse. Et souvent, on va prendre plaisir, une fois l'album fini, de revenir en arrière, ce qui est le propre de la bande dessinée. On peut vraiment butiner à gauche et à droite là, d'une page et d'une case à l'autre.
Oui, ben en fait, même juste exemple, un Astérix que je relis hein, sporadiquement, ou les Astérix qu'on relit toujours sporadiquement.
Et il y a toujours des gags qu'on comprend, qu'on comprenait pas il y a 10 ans, il y a 5 ans.
Et qu'on peut lire aussi facilement en 20 minutes, planir, tomber dans l'aventure simplement, et dans le dynamisme qui est offert par le dessin, par la narration, ou autant on peut prendre vraiment page par page, profiter des jeux de mots, profiter de la richesse du texte, la richesse du rythme offert par le dessin, essayer de le comprendre. On peut les lire autant en 3 mois qu'en 20 minutes. Là, c'est...
Ouais.
Ah ben voilà, en fait, un texte qu'on pourra réentendre d'ailleurs, si on le souhaite, sur le blog de l'émission.
Oui, c'était peut-être un peu dense, alors c'est comme la BD, on peut retourner grâce à Internet.
Grâce à Internet, sur lavieenbd.wordpress.com pour réentendre, réexplorer, se remettre à l'oreille ce texte-là, et voir aussi, au bout du compte, si notre expérience BD est similaire à la tienne, si on a un parcours, un partage, un regard peut-être similaire, si nos expériences qui nous ont menés à la BD sont similaires aux tiennes. Ben c'est aussi le plaisir de se réunir entre lecteurs, c'est ça.
Si elles le sont pas, ma foi, ben tant mieux. Je me dis, ben, en tout cas, c'est pas moi qui le dis. On dit toujours qu'il y a toujours un livre, même pour les gens qui n'aiment pas lire. Là, il y a chacun notre livre déclencheur qui va nous donner le goût de lire. Il y a des gens pour qui ça arrive plus tard. Au rendez-vous de la BD, Il y a une jeune animatrice d'un groupe d'alphabétisation qui a invité des membres de son groupe. Et puis, depuis, il y en a un qui vient vraiment fidèlement à chaque rencontre et à qui ça donne le goût de lire. Alors, wow!
Tant mieux. Mm. C'est le but aussi, c'est, ouais. C'est de lire.
Ouais.
Et de profiter de l'été pour le faire, parce qu'on aura le temps.
Ouais.
Ouais. Ben Michel Giguère, on te souhaite de bonnes vacances.
Hey Raymond, bravo pour cette première année.
Ben merci
Chapeau.
Beaucoup.
Chapeau, franchement là. Et quelle émission.
Et c'est ainsi qu'on termine donc la première année de cette édition de cette émission La vie en BD. Je vous rappelais tout à l'heure, en fait, si vous voulez réentendre les émissions au fil de l'année, ben c'est lavieenbd.wordpress.com. Si vous voulez garder contact et continuer de partager entre lecteurs, entre amateurs de BD, bien aussi mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Je continuerai à l'animer au fil de l'été, de critiques, de commentaires, de rattrapage de lecture. Alors allez y faire un tour. Et sinon, ben, je voudrais évidemment remercier les collaborateurs de cette première année. Alors, Stéphane Gravel, Anne-Marie Olivier, Sam Murdoch, Marco Duchesne, Olivier Bérard-Vidal, Thomas-Louis Côté, Pascal Rault et Michel Giguère. Mais ben, merci à vous tous et toutes.
Et là, normalement, tout le monde que tu viens de nommer devrait être en studio.
Avec une champagne.
Bombe, non, une bombe explose pendant qu'on est en onde. Et là, tous les auditeurs se demandent qui est mort, qui a survécu, qui va revenir à l'automne.
Avec un punch pour l'automne.
On a raté notre coup, là.
Ah, on se trouvera d'autres punchs. Il y a des festivals, il y a des sorties d'albums. On commence déjà à m'en parler. J'ai déjà hâte d'en lire plusieurs. Alors, on aura de quoi parler. Même si on n'a pas de cliffhanger, comme on dit en bon français, ben revenez-nous cet automne. Et d'ici là, ben passez un très bon été sur les ondes de CKRL. Et dans quelques instants, c'est l'équipe de 100% Dynamite qui va prendre le relais, comme à l'habitude. C'était Raymond Poirier au micro, et c'est un plaisir de vous offrir La vie en BD.